J'aime pas les défis, mais je crois que ma vie est un grand défi. Mais parfois, on ne fait pas forcément ce qu'on a choisi. Mais quand la main de Dieu est avec nous, ça fait toute la différence. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que Dieu a demandé à l'homme, à Adam, de nommer les animaux ? Encore faut-il que vous soyez au courant que Dieu a demandé à Adam de nommer tous les animaux. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, si vous aviez été à sa place, comment est-ce que vous auriez fait? Quelles émotions est-ce que ça aurait suscité en vous? Et surtout, mais pourquoi est-ce que Dieu demande à Adam de nommer les animaux? Alors, on fait un tout petit récap. Vous vous rappelez certainement que nous sommes dans Genèse, les chapitres 1 à 3. Nous avons parlé de notre identité créationnelle, que nous avons un créateur, que nous sommes créatures, nous dépendons de notre créature, nous sommes créés en image de Dieu, en forme d'image de Dieu, de manière à révéler Dieu, à parler de Dieu à la création par notre façon d'être, à représenter, à être ambassadeur de Dieu sur terre. Nous avons parlé de notre mandat créationnel, ça c'était il y a 2 semaines. Nous étions dans le chapitre 2 de la Genèse et nous avions vu que nous sommes rois serviteurs. Nous avons l'autorité et nous avons le mandat de gouverner avec un cœur de service. Et le but, c'est de mener toute la création à son accomplissement. Et son accomplissement, c'est la louange à l'Éternel, c'est l'adoration à Dieu. Ce matin, on va voir identité et mandat créationnel. Nous allons dans Genèse 2, les versets 18 à 25. Avec toujours ce but, mener la création à l'adoration en vivant notre pleine humanité. Ça, c'est un gros défi. Il y a 2 semaines, on est allé visiter un jardin luxuriant, le jardin d'Éden. On a vu qu'il était riche en beauté, qu'il était riche en saveur, en goût. Tout est luxuriant, il y a de l'abondance, il y a de l'or, il y a des pierres précieuses, il y a des résines aromatiques, il y a de l'eau en abondance. Et nous avons découvert que si l'homme y a été placé, ce n'est pas premièrement pour en jouir, ce n'est pas premièrement pour l'exploiter pour son ventre, mais c'est pour s'en occuper. Et nous avons vu 4 termes, 4 verbes, cultiver. Cultiver qui veut surtout dire travailler, servir. Garder. Garder qui veut dire prendre soin. Observer pour pouvoir prendre soin. Protéger. Et nous avons vu aussi qu'il y a les 2 verbes dominer et assujettir. C'est-à-dire exercer une gouvernance, exercer un règne, exercer une autorité pour que toute cette création puisse s'épanouir pour la gloire de Dieu. Et en clair, notre mandat, en tant qu'être humain, c'est d'être des rois serviteurs. Mais voilà, il n'y a pas tout dans ce jardin. On dirait qu'il y a tout. On dirait qu'il y a tout pour combler les besoins de l'homme. Il y a tout, on peut en rêver de ce jardin, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour que l'homme s'y épanouisse. Il y a quelque chose d'important que l'homme doit comprendre. Il a un manque. Il a un manque que ni les animaux, ni lui-même, ni un même que lui ne peut combler. Et Dieu le sait. Dieu le sait parce que c'est comme ça qu'il a créé l'être humain. Il a décidé de créer l'être humain avec un manque. Alors, Allons voir le texte. Genèse 2, à partir du verset 18. Dieu a juste placé l'homme dans le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas un constat. C'est pas un constat parce que rien n'a encore commencé. Tout est là, l'homme il est posé dans le jardin, mais l'homme n'a encore rien fait. Jusqu'à maintenant, il a été complètement passif. C'est pas un constat, c'est une affirmation. C'est une affirmation parce que Dieu a créé l'homme comme ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais lui faire une aide semblable à lui. On comprend ce que Dieu a prévu de faire. Mais voilà. Que fait Dieu? Il fait pas une aide, il fait des animaux. Dieu forme de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fait défiler devant l'homme. Moi, j'imaginais un peu l'arche de Noé, où tous les animaux, deux à deux, sont montés dans l'arche devant Noé, qui leur disait « Allez, allez-y, allez-y, allez-y. » Et je vois tous ces animaux qui défilent devant Adam, pour que Adam les nomme. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec une aide? Pourquoi cet ordre? Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Moi, je crois qu'il y a deux grandes raisons. Des grandes raisons avec des sous-raisons. Mais il y en a deux grandes. Et la première, c'est une question d'autorité. Et là, on est dans le mandat créationnel. Dieu, il aurait pu nommer tous les animaux et informer Adam en lui disant « Celui-ci, c'est le lion, celui-ci, c'est le chat, celui-ci, c'est le chien, ça, c'est le ver de terre, soit c'est le moineau. » Il aurait pu. Mais non, il y a quelque chose de plus important. Dieu fit venir les oiseaux du ciel, les animaux des champs, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Afin que tout être vivant porte le nom. Autrement dit, afin que tout être vivant soit sous l'autorité de l'homme. Il y a un ordre. Si l'homme a reçu le mandat de gérer, de gouverner la création, il faut que la création reconnaisse l'autorité de l'homme, mais il faut aussi que l'homme reconnaisse sa propre autorité et surtout, il faut qu'il l'ait reçue. Ça suffit pas de juste dire « t'as l'autorité, vas-y ». Il faut qu'il y ait une véritable délégation d'autorité. Et c'est ce que Dieu fait. Au lieu de nommer lui-même les animaux, Dieu se retire. C'est un peu comme si Dieu retourne au ciel et dit à l'homme, débrouille-toi. Mais il lui dit, débrouille-toi avec mon autorité que je te donne. Je te la délègue. Tu as la puissance, tu as l'intelligence, tu as tout ce dont tu as besoin pour remplir cette tâche. Maintenant, vas-y. Il permet à l'homme d'entrer dans son appel. Ça commence comme ça, l'homme doit être actif. Une des sous-raisons, c'est que l'homme doit comprendre qui il est. En nommant lui-même les animaux, il va commencer à comprendre tout ce que Dieu a déposé en lui. Il va comprendre qui il est sur cette terre. Il va comprendre son mandat, il va comprendre l'autorité qu'il a reçue, il va comprendre l'intelligence qu'il a reçue, il va comprendre l'esprit de discernement qu'il a reçu, il va comprendre beaucoup de choses. Mais c'est une immense responsabilité. Imaginez, beaucoup d'entre vous, vous êtes parents. Vous avez dû donner des noms à vos enfants. Alors, pour certains, ça a été facile. Parce qu'il y a un prénom que vous aviez toujours à cœur. Vous vous êtes dit, le jour où j'ai un garçon, j'appelle comme ça. Le jour où j'ai une fille, je l'appelle comme ça. Et puis pour d'autres, ça a été compliqué, parce que déjà, il fallait s'entendre. Mais pour d'autres, il y avait trop de choix, vous saviez pas. Puis pour d'autres, il peut y avoir tellement de situations différentes. Mais vous saviez que ce nom, votre enfant, il allait le porter jusque dans sa blanche vieillesse. Et que c'était pas anodin comme choix. C'était sûrement une tâche difficile, magnifique, mais difficile. Mais soyons clairs, c'était à toute petite échelle. Vous avez dû trouver un prénom, éventuellement deux, exceptionnellement trois, ça arrive aussi. Alors on peut faire fois deux parce que des fois on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Mais c'est à toute petite échelle. Imaginez Adam. Adam, il a vu tous les animaux de la terre. Il a fallu commencer à les nommer. Mais comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a fait pour trouver le nom juste? Il a dû observer. Prenons le lion. C'est quoi? C'est quoi comme animal, le lion? Un félin, un prédateur. Alors, on va tout rembobiner. D'abord, on va essayer de faire des catégories. Qu'est-ce que c'est avant d'être un félin?
Un
mammifère. Un mammifère, ok. Qu'est-ce que c'est avant d'être un mammifère?
Un
animal. Ok, mais ça on le sait que c'est des animaux qu'il doit nommer, donc?
Un roi.
Ah ben là, on ne sait pas encore qu'il est roi. Mais c'est vrai, magnifique. Adam, il a dû se dire, alors là, la tâche est tellement grande qu'il va falloir faire des catégories. Il va falloir faire des familles et des sous-groupes et des sous-sous-groupes. Le lion, c'est un vertébré parce qu'il y a des invertébrés. Le lion, c'est un mammifère parce qu'il y a d'autres animaux. C'est un mammifère carnivore. Et c'est un mammifère carnivore félinidé. Autrement dit, c'est un félin. Mais des félins, il y en a beaucoup. Alors, son genre de félin, c'est la panthère. Et Adam fait ça pour tous les animaux. Imaginez, il doit observer, il doit se dire, mais en fait, comment est-ce qu'il vit cet animal pour savoir dans quel groupe je vais le mettre? Déjà, comment est-ce qu'il est physiquement, mais comment est-ce qu'il se comporte? Plutôt en groupe, en solitaire? Est-ce que c'est un animal diurne, nocturne? Est-ce qu'il est sauvage, lent, rapide, craintif, agressif, sédentaire, migrateur? Imaginez tout ce qu'il a dû observer pour après se dire, ok, celui-ci, il va dans ce groupe, celui-ci, il va dans ce groupe, celui-ci, ah mais attends, celui-là, il va encore en dessous parce que. C'est énorme. Mais Adam l'a fait. C'était un exercice vraiment difficile, mais absolument nécessaire. Parce que en faisant ça, il a commencé à se connaître lui-même. Ça a commencé à leur bouillir de l'intérieur, dire, oh, mais cette responsabilité, oh, mais cette charge, oh, mais comme c'est beau, mais ce que le Seigneur a créé, comme c'est merveilleux. Et ça va dans tous les sens, dans ses émotions. Et en même temps, il comprend sa responsabilité. Sur tout ce beau monde, il a l'autorité. Et les animaux reçoivent leur nom. Autrement dit, ils se placent sous son autorité. De la même manière aujourd'hui, nous avons reçu cette autorité de nommer les animaux. Nous avons reçu l'autorité d'être des rois, d'être des gens qui prennent autorité par la parole, par la prière, par une vie juste, par une vie de sainteté, par la vie de vérité. Quand on marche dans la vérité, quand on plaide pour la justice, nous sommes en train de donner de la voix. Nous sommes en train de prendre autorité sur le monde dans lequel nous sommes placés. C'était important qu'Adam fasse ça pour le comprendre. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Voilà la deuxième raison pour laquelle Adam devait nommer les animaux. Adam devait comprendre qu'il avait un manque. Et il devait comprendre pour ça qu'il était différent des animaux. C'est en faisant cet exercice de voir qui sont les animaux qu'il a compris que lui, il en est pas, hein. Il y a peut-être des similitudes, mais il est un être humain. Lui, il est fait à l'image de Dieu, mais pas les animaux. Et ça, il a fallu qu'ils le comprennent. Et de nos jours, quand on voit ce qui se passe dans la société et les causes pour lesquelles certains plaident, on n'est pas sûr que tout le monde a compris qu'on est quand même différent des animaux. Mais Adam, là, devait le comprendre. Et ça, c'est des principes, c'est des lois qui n'ont pas changé, mes amis. Ça n'a pas changé. Alors, puisqu'il est tout seul, qui sera son aide? Puisqu'il n'est pas un animal, comment faire pour combler son manque? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Fait très intéressant, Adam est complètement passif lorsque Dieu crée la femme. Il n'a aucune part active, il est atteint d'un profond sommeil, il dort. Silence radio, plus personne. Et ça, c'est important. C'est important de comprendre que Adam a pu comprendre qui il était, il a pu comprendre son manque, mais il n'a pas pu y répondre tout seul. L'être humain, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, ne peut pas lui-même répondre à ses besoins. Tout vient de Dieu. La solution, elle vient de Dieu. Je ne peux pas chercher dans mon mari la réponse à tous mes besoins. Dieu utilise mon mari pour répondre à certains de mes besoins. Mais en fait, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. C'est Dieu qui répond aux besoins. Voilà pourquoi Adam est complètement passif. Mais à un moment donné, il se réveille. Heureusement. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Cette fois, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Enfin, enfin c'est elle. Il n'y avait personne parmi tous ces animaux pour être mon vis-à-vis. Il n'y avait personne, mais cette fois, ça y est. Voilà le constat que fait Adam. Encore une fois, le regard et l'observation. Adam a dû observer, il l'a vu cette femme, il l'a observée et il a pu comprendre, cette fois, c'est elle, cette fois, c'est celle qui est de la même nature que moi. Elle est de la même nature, parce que c'est Dieu qui l'a créée, comme Dieu m'a créée moi-même. Nous avons la même valeur créationnelle, la même dignité. Elle aussi, elle est créée en image de Dieu. Elle aussi, elle a reçu les mêmes bénédictions. Elle aussi, elle a reçu le même mandat. Os de mes os et chair de ma chair. Pourtant, elle est différente. Adam reconnaît que c'est une femme. Dieu a créé une femme, pas un homme, une femme. Pour combler le besoin de l'homme, il fallait quelqu'un de différent, quelqu'un de même nature, mais quelqu'un de différent. C'est l'altérité qui fait la complémentarité. C'est dans l'altérité qu'il y a l'unité de l'humanité. On ne peut pas être pleinement humain si on enlève l'altérité. Chair de ma chair, os de mes os de même nature, chair de ma chair, pour faire un, pour être semblable, pour faire une unité. De la même manière que Dieu est un. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit, mais il est un. Homme et femme, une unité d'humanité. La complémentarité de l'humanité. On est pleinement humain que si on accueille notre différence, notre propre différence, la différence de l'autre, et que si on vit cette complémentarité. La femme, c'est celle qui est l'aide de l'homme. Alors il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur ce mot, je ne vais pas trop m'attarder sur ces choses-là. Mais ce mot en hébreu, il veut dire Edzer, c'est un mot qui est utilisé essentiellement quand c'est Dieu qui est le secours de l'homme. En français, on a mis aide et on pense subalterne. Ce mot ne veut pas du tout dire ça dans la parole. Il veut dire secours, salut et aide dans le sens d'être un secours. Autrement dit, la femme, elle a reçu l'autorité de secourir l'homme, de lui venir en aide pour le porter, pour l'aider dans sa tâche. Mais l'homme, lui, c'est lui qui dit « on l'appellera femme ». L'homme, il est toujours dans son autorité de nommer. Et il n'a pas seulement nommé les animaux, il nomme aussi les êtres humains. Autrement dit, l'homme a aussi autorité sur sa femme. D'ailleurs, plus loin, au chapitre 3, c'est Adam qui nomme Ève, parce qu'elle est la mère de tous les vivants. C'est lui qui lui donne son prénom. Il y a une complémentarité dans l'autorité. L'homme et la femme ont autorité l'un sur l'autre, mais toujours au bénéfice de l'autre. Toujours pour être un, toujours pour être plus fort ensemble. Il n'y a jamais, jamais de rivalité ou d'esprit subalterne ou d'infériorité. On est dans un contexte d'intégrité, de complémentarité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme, l'humanité, soit seule, soit unique, soit unisexe. Ça n'existe pas. L'humanité, elle est sexuée, mâle, femelle, homme, femme. Il n'y a pas d'humanité sans altérité. Et c'est à cause de ça que juste après, juste le verset 24, nous donne l'institution du mariage. C'est pourquoi, à cause de toutes ces choses, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, autrement dit, il deviendra autonome, il s'attachera à sa femme, autrement dit, il s'engage, il y a une notion de fidélité et d'un acte public, et ils deviendront une seule chair. Ils vont faire un, vivre pleinement l'humanité selon le cœur de Dieu pour être image de Dieu. Il n'y a pas d'autre schéma que ce schéma-là pour vivre une pleine humanité au niveau de la sexualité. Alors, ça ne veut pas dire que quand on est célibataire ou quand on est seul, qu'on ne vit pas notre pleine humanité. Je crois qu'il y a plusieurs dimensions. Si on prend une dimension, on va dire, très large au niveau de la société, au niveau, par exemple, national, on va aller en Afghanistan. En Afghanistan, la pleine humanité nationale n'est pas vécue. Parce que les femmes sont mises de côté, les femmes sont effacées, les femmes deviennent des objets, elles sont presque moins bien traitées que les animaux, elles doivent juste servir à quelque chose. On ne leur reconnaît pas leur dignité d'être humain. On ne leur reconnaît pas l'autorité qu'elles ont reçue. On ne leur reconnaît pas le fait qu'elles sont en image de Dieu. Autrement dit, ce clivage entre hommes et femmes fait que ni les hommes, ni les femmes vivent pleinement leur dignité d'être humain. Et eux, autant les hommes que les femmes, ne vivent pas leur pleine humanité parce qu'ils sont en conflit, parce qu'ils n'acceptent pas, ils ne reconnaissent pas leurs différences, ils n'arrivent pas à vivre avec. Ils s'éloignent de Dieu. Ultimement, le refus de la différence, c'est le refus de Dieu. C'est le refus d'être en image de Dieu, c'est le refus de la relation à leur Créateur. Bien sûr que c'est des choses qui la plupart du temps sont inconscientes. Mais c'est une réalité. Et ça, c'est des choses que vous pouvez prendre, vous les entendez maintenant, mais méditez-les. Ceux qui ont des enfants, des ados, des jeunes, parlez, ayez des conversations comme ça, avec tout ce que les médias nous assènent, avec tout ce que les politiques décident, avec tout ce qui est en train de se passer. Expliquez-leur pourquoi il y a un schéma qui est le bon, un homme, une femme. Maintenant, il y a aussi le fait à plus petite échelle. Quand au niveau politique, il n'y a que des hommes qui font de la politique, c'est pas bon. Mais quand c'est les femmes qui prennent le dessus, qu'il y a une majorité de femmes, c'est pas bon non plus. Et ça, on peut le voir. C'est depuis que les femmes sont venues au pouvoir, si je peux dire ça comme ça, qu'il y a tellement de déséquilibre justement dans cet ordre que Dieu a mis. À force de vouloir revendiquer, de vouloir essayer de rattraper tous les droits qui leur ont été bafoués, elles se trompent de combat. Et ça crée un déséquilibre. Et on est en train de s'éloigner de Dieu. Et dans l'Église aussi. Dans la nôtre, là, je crois que cette fois, c'est bon. Il y a vraiment la complémentarité homme-femme. Mais ça, c'est pas fait tout seul. Il a fallu des années, des décennies, pour que les femmes aient le droit de prendre la parole, pour qu'elles aient le droit de distribuer la Sainte Cène, pour qu'elles aient le droit d'avoir une responsabilité autre qu'avec les enfants. Et quand vous allez dans certaines églises, peut-être beaucoup moins en Suisse, mais il y a des endroits, les hommes sont assis d'un côté et les femmes de l'autre. Alors ils vivent ensemble à la colle, à la maison, mais à l'église, non, on ne va pas se toucher quand même. Dans la société, pour vivre pleinement notre humanité, il faut accueillir nos différences, les miennes, les tiennes. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Encore une fois, le regard. Ils sont en face l'un de l'autre et ils se voient et ils s'observent et c'est comme ça qu'ils voient leurs différences. Mais ils n'en ont point honte. Bien sûr, on est toujours dans ce contexte d'intégrité. Mais ils n'en ont point honte. Parce que, justement, ils peuvent s'épanouir dans la complémentarité. Lorsque Adam se regarde dans la femme, elle a un effet de miroir. Il se voit lui-même. Il comprend qu'il est différent, il comprend qu'elle est différente, il comprend qu'elle a des besoins différents, qu'elle va réagir différemment et qu'il va falloir s'y adapter. C'est pas toujours facile. Je sais que mon mari a encore des grandes interrogations. Mais moi aussi. Parce que c'est quand lui, il s'interroge à mon propos que je me dis, ah ouais, je suis comme ça. Ah ouais. Et des fois, je peux me dire cool. Puis des fois, je me dis, oh là 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 là. Lorsqu'on se regarde l'un dans l'autre, on a un effet de miroir. Alors bien sûr qu'au niveau du mariage, c'est le moment le plus intense, c'est la cellule la plus intense, mais dans la société, dans la famille, au travail, c'est exactement pareil. Et plus on comprend comment l'autre fonctionne, moins on est en rivalité. Mais plus on peut se dire, écoute, toi t'es un gars, est-ce que tu peux m'aider pour ça, parce que moi là, ça va pas. Et dans les deux sens. Alors, je termine et j'aimerais juste relever ce verset, le 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Le regard, l'observation. Dieu n'avait pas besoin de savoir quel nom l'homme allait donner aux animaux. Dieu n'avait pas besoin de savoir comment est-ce qu'Adam allait s'y prendre. C'est Dieu qui a créé Adam. Dieu, c'est le concepteur d'Adam. Il sait exactement ce qu'il lui a mis dans les tripes. Il sait exactement quelle intelligence il lui a donné. Il savait très bien comment les choses allaient se passer. C'est pas Dieu qui avait besoin d'une information. Dieu voulait voir comment l'homme allait s'y prendre. Autrement dit, depuis ce passage-là, ça nous explique tout ce que je viens de vous dire. En réalité, c'est Adam qui devait comprendre. C'est Adam qui devait aller à l'intérieur de lui-même, observer, poser un regard juste. Et pourquoi pas demander à Dieu, donne-moi le discernement. Donne-moi un esprit de discernement qui me fasse comprendre, qui me fasse voir. Viens me visiter dans ces endroits que ça fait bouillonner quand j'essaye de me plier à cet exercice. Lorsque je regarde l'autre et que ces différences me font peur, qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Ou quand il y a une espèce de révolte qui monte en moi, une espèce de colère qui monte en moi par rapport aux différences de l'autre, ça vient d'où? Seigneur, viens. Viens guérir, viens toucher ces endroits. Et là où mes différences, elles me font honte. Seigneur, viens me rendre ma dignité, Viens enlever cette honte et montre-moi la créature merveilleuse que je suis. Viens me restaurer dans mon identité. Et quand j'ai des attirances qui ne sont pas justes et qui me font souffrir, mais que je n'ose pas en parler, surtout dans l'Église, Seigneur, viens, viens, mets quelqu'un sur ma route à qui je pourrai en parler, quelqu'un qui pourra prier pour moi, pour que je comprenne qu'est-ce qui fait que je m'éloigne de toi, qu'est-ce qui fait que je refuse ta présence en moi, qu'est-ce qui fait que je refuse de porter ton image. C'est parce que quelque chose a été faussé. Tu sais pourquoi. Viens guérir ces endroits-là. Et moi, je crois que la guérison, elle est possible. Je pense qu'il y a des longs chemins de restauration. Mais je pense que Dieu est assez fort pour le faire. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Que chacun, entre nous, ensemble, dans la société, nous n'ayons pas honte. Nous n'ayons pas honte de nous-mêmes et que nous n'ayons pas honte de l'autre. Mais que nous soyons des rois serviteurs, que nous soyons des rois serviteurs, des gens qui commencent à bénir nos semblables, qui commencent à bénir les différences de nos semblables, qui commencent à être une parole prophétique, quelqu'un, un peuple qui donne de la voix pour annoncer la justice de Dieu, la vérité de Dieu, et accueillir l'autre dans ce qu'il vit, pour l'aider, pour le supporter, pour le porter, pour l'amener à être toujours plus porteur de l'image de Dieu dans ses circonstances et dans sa vie. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui a un peu ses tripes qui bouillonnent. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit, waouh, moi, ma vie, elle n'a pas été facile. Peut-être que ce n'est même pas une question de genre. Est-ce que je suis un homme ou une femme? Mais c'est le regard des autres. Il y a certaines personnes, depuis l'enfance, depuis l'école, où ça a été difficile. Toi, t'es différent. Mais mes amis, la différence, elle est bonne. Parce que tu es un être unique, un être chéri de Dieu, voulu de Dieu, créé de Dieu, aimé de Dieu, avec un mandat de porter son image et d'amener toute la création à l'adoration. Alors si quelqu'un est rebouillé dans ses entrailles par rapport à tout ce message, eh bien fais un signe devant Dieu. Fais un signe devant Dieu maintenant, dis-le à Dieu dans ton cœur. Dis-le à Dieu que tu as besoin de son aide. Et moi je vais prier. Seigneur, Père éternel, merci. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci parce que c'est avec tellement d'amour que tu nous as créés, chacun d'entre nous. Tu as mis, Seigneur, toute ta tendresse, toute ta douceur, toute ta bonté dans nos vies, dans nos corps, dans notre âme, dans tout ce que nous sommes. Tu nous as aimés de toute éternité. Et maintenant, ce sont nos vies qui défilent devant toi. Seigneur, ce sont nos vies qui défilent devant toi. Je te remets chacun d'entre nous. Tu sais ce que nous avons vécu durant tout notre parcours. Tu connais les douleurs de chacun. Tu connais les difficultés de chacun. Merci Jésus parce que toi aussi tu as été mis de côté. Toi aussi tu n'as pas été aimé par tout le monde. Tu as été rejeté. Tu as été mis à part. Tu as été humilié. On a voulu faire de toi un sujet de honte, mais c'est par ta volonté que tu t'es donné en sacrifice. Et tu as pris à ta croix dans ton corps brisé notre honte, les malédictions, toutes les paroles de malédiction qui ont été proférées contre nous. Seigneur, merci parce que tu es venu pour nous restaurer, pour nous sauver. Tu es ressuscité, tu es vivant, et maintenant par ton Saint-Esprit, tu viens nous visiter. Alors je te demande d'ouvrir les écluses des cieux, et que ton Saint-Esprit maintenant descende sur chacun d'entre nous. Je te demande de visiter les cœurs. Visite tous ceux, Seigneur, qui sont dans l'adversité, tous ceux qui luttent dans leur identité, tous ceux qui sont meurtris parce qu'on a montré du doigt leurs différences. Et je te demande de leur donner un esprit de révélation qui leur fasse connaître ta volonté pour leur propre vie, qui leur fasse connaître ton amour, qui leur fasse connaître la vérité, qu'ils sont une créature merveilleuse. Seigneur, je te demande que tous ceux qui ont besoin de guérison puissent depuis aujourd'hui, si c'est pas déjà le cas, entrer dans un processus de restauration, que chacun d'eux vive une pleine restauration, que chacun d'eux puisse aller de gloire en gloire, de guérison en guérison, d'épanouissement en épanouissement. Que ta faveur descende maintenant sur toute l'Église. Merci Seigneur et gloire à ton nom. Amen. Amen.